Chapitre 4. Globo, le réparateur ensorcelé. Ça faisait réellement un drôle d'effet de tomber au ralenti, sans aucun parachute. Les parois du gouffre défilaient doucement autour de nous au fur et à mesure que nous nous enfoncions. L'air était épais, je ne trouve pas d'autre mot. Comme de la gelée de groseille, si vous voyez ce que je veux dire. Si nous n'avions pas avalé les pilules magiques offertes par la valise, il nous aurait fallu plusieurs jours pour atteindre le fond. Au moment de sauter dans le vide, j'avais en effet remarqué que les gens bougeaient si lentement qu'on aurait dit des statues descendues de leur socle. Un horrible fouillis régnait au fond du trou. Arbres, maisons, machines agricoles, tout s'était fracassé pour constituer une montagne de débris entre lesquels nous avons dû nous faufiler. Heureusement, la valise nous guidait. C'est elle qui déterminait le chemin à suivre. Nous avons touché le sol avec un certain soulagement, je dois l'avouer. Là bâillait un nouveau cratère, moins important, l'entrée du monde souterrain. Brusquement, l'air a repris sa consistance normale, et j'ai compris que le temps s'était remis à couler normalement. Il fallait en profiter pour descendre dans la caverne. La valise à la main, je me suis engagée au milieu des éboulis. Il ne faisait pas noir dans la grotte. De très jolis scintillements couraient sur les parois, un peu comme des guirlandes de Noël. Ça clignotait. Bleu, rouge, vert, jaune. J'ai eu l'impression d'entrer dans la tanière du Père Noël. Zut, j'aurais dû faire une liste de cadeaux. D'après ce que j'ai pu en voir, la grotte était immense. Un véritable monde souterrain. « Hé !» s'est exclamé Poppy, « regarde, il y a un panneau !» Effectivement, coincée entre deux rochers, une vieille pancarte, peinte en lettres gothiques très difficiles à déchiffrer, annonçait « Globo, réparateur de machines magiques, suivez la flèche !» À voir la peinture écaillée, ça ne devait pas dater d'hier. J'en ai fait la remarque à la valise. Elle m'a répondu. Globo est immortel. Il est là depuis des millénaires. Quand on n'a pas besoin de lui, il s'endort et entre en hibernation comme les ours. Le problème ensuite, c'est de parvenir à le réveiller. Son sommeil est si profond qu'il est difficile de lui faire ouvrir les yeux. Il est gentil, ai-je demandé. Plus ou moins, ça dépend de son humeur. Il est paresseux et déteste être réveillé. C'est un colosse, car seul un homme possédant une force herculéenne est capable de soulever la trousse à outils permettant de réparer la machine merveilleuse. Il va probablement se mettre à râler. Je crois qu'il dort depuis 700 ans et qu'il n'a pas tellement envie de reprendre le travail. Bon, ça s'annonçait bien. Nous avons suivi les flèches peintes sur la paroi. Un chemin serpentait à travers les rochers. Quand on levait les yeux, on s'apercevait que la caverne était pleine de stalactites qui y descendent, de stalagmites qui montent, et tous ces trucs couverts de calcaire qui ressemblent à des dents de dinosaures gigantesques. Faut aimer. Bon, en réalité, ça flanque un peu la trouille. Une curieuse baraque s'est enfin dressée sur notre chemin. Un château miniature constitué de pierres entassées un peu n'importe comment. Au-dessus de la porte, une plaque gravée au burin proclamait « Réparateur spécialisé, à ne réveiller qu'en cas d'urgence et à vos risques et périls. » « D'accord, » a soufflé Poppy. « Au moins on est prévenu. Tu crois qu'il va nous arracher la tête ?»« Remarque, je comprends ça. Je déteste qu'on me réveille en sursaut. » Nous avons franchi le seuil de la bâtisse. Ça empestait la chaussette sale, un peu comme dans une chambre de garçon. Il y avait des toiles d'araignée partout et le moindre objet était recouvert d'une épaisse couche de poussière grise. D'après ce qu'on pouvait en voir, ça ressemblait à l'atelier d'un garagiste avec plein d'outils bizarres et énormes. Des ronflements faisaient trembler les murs, à croire qu'un éléphant faisait la sieste dans la chambre d'à côté. « Posé sur le sol, un gros sac de cuir occupait le centre de l'atelier. J'ai voulu le soulever, il pesait des tonnes. Seul un colosse aurait pu l'arracher de terre. « Tu as vu ça ?» a soufflé Poppy en désignant une nouvelle pancarte. Je me suis penchée. À travers la couche de poussière, j'ai déchiffré l'inscription suivante. « Attention ! Si vous le réveillez, le réparateur sera de forte méchante humeur. Si vous ne voulez pas qu'il vous écrase la tête d'un coup de poing, préparez-lui un succulent petit déjeuner. Le café, la confiture et le pain sont dans le placard rouge. »
« De mieux en mieux. »«
Qu'est-ce qu'on fait ?» a demandé Poppy. « Je crois qu'il faut suivre la procédure, » ai-je soupiré. « Préparons-lui son déjeuner. »« Je ne tiens pas à ce que cet ogre m'arrache bras et jambes parce qu'il a le réveil mauvais. » Le placard en question disparaissait sous les toiles d'araignée. Il a fallu les déblayer pour y accéder. Hélas ! Une fois les portes ouvertes, nous avons dû déchanter. Les provisions étaient là depuis si longtemps qu'elles étaient immangeables. Le pain était dur comme un caillou, la confiture s'était changée en moisissure et le café avait une odeur de poubelle. « Nous voilà bien !» s'est exclamé Poppy. « Tant pis, ai-je fait en haussant les épaules. Allons voir la tête qu'il a. » Nous avons franchi le seuil de la chambre sur la pointe des pieds. La surprise nous a pétrifiés, les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte. Nous nous attendions à trouver un géant aux muscles énormes, mais si l'homme qui dormait entortillé dans ses draps poussiéreux était effectivement très grand, il n'avait rien d'un Hercule. C'était au contraire un vieillard d'une maigreur épouvantable à la longue barbe blanche. Comme il était plongé dans le sommeil depuis des siècles, les araignées avaient tissé des toiles sur son visage, si bien qu'il avait l'air d'une statue oubliée au fond d'un château. « Mais c'est un vieux bonhomme !» a hoqueté Poppy. « Ses bras sont à peine plus gros que des spaghettis. Jamais il ne pourra soulever la trousse à outils magiques. »« Il a dû maigrir en dormant, ai-je supposé. C'est ce qui arrive aux ours qui hibernent. Quand ils se réveillent, leur peau flotte sur leurs os. » J'étais plutôt consternée. Horriblement déçue, quoi. Dans l'état où il est, il ne risque pas de nous faire du mal, s'est réjouie Poppy. On ne court pas grand danger à le réveiller. Je me suis approchée du lit. Globo avait l'air en piteux état pour un réparateur. Sa peau adhérait à ses os, laissant deviner les contours de son squelette. Je le voyais mal soulever sa trousse à outils et partir réparer la machine. Je doutais même qu'il ait la force de s'asseoir sur son lit.
« Que fait-on » ai-je demandé à la valise. « Vous devez le réveiller, » a insisté le bagage. « Rien n'est possible sans lui. Lui seul est capable de réparer la machine merveilleuse. » Poppy s'est approché du lit et a crié « Debout là-dedans !» à l'oreille du vieux bonhomme. Globo n'a pas bronché. Ses ronflements n'ont pas diminué d'un décibel. C'est ce qui sert à mesurer le son. Et en plus, il est sourd, a lâché Poppy dépité. Mais non, est intervenue la valise. Il est endormi depuis des siècles. C'est pour ça. Il faut insister. Obéissante, nous nous sommes mises à deux pour crier. Sans aucun résultat. La gorge en feu, je suis allée dans la cuisine récupérer une casserole et j'ai tapé dessus avec une louche comme s'il s'agissait d'un tambour. Globo a continué de dormir. Il paraissait si maigre, si frêle, que je n'osais pas le secouer de peur de lui briser les os. C'était une sorte de très vieux grand-père, dont la taille avoisinait les 2,50 m, mais qui tomberait probablement en miettes s'il commettait l'erreur de se redresser. J'avais un peu honte de le persécuter. Après avoir crié, sauté, chanté, battu des mains, tapé sur des marmites, nous avons bien été forcés de nous rendre à l'évidence. Aucun vacarme ne semblait capable d'éveiller Globo. « Si les bruits habituels ne fonctionnent pas, » a fait remarquer la valise, « c'est sans doute qu'il faut utiliser un son magique. Cherchez autour de vous.
il y a forcément quelque chose. Un sifflet, une flûte. Nous avons mis la chambre sans dessus-dessous avant de passer dans l'atelier. Chaque fois que nous touchions un objet, un nuage de poussière s'en échappait, nous faisant tousser et éternuer. Épuisé, j'allais renoncer quand j'ai enfin aperçu une minuscule inscription sur le montant de la porte. Pour réveiller le réparateur, appuyez sur ce bouton. Je me serais flanqué des claques. Évidemment, le bouton était à peine plus gros qu'un noyau de cerise et on le distinguait mal. Mais bon, comme quoi il faut toujours lire les panneaux de signalisation. J'ai pressé le bouton. Un bruit mélodieux a résonné, un son cristallin, très beau, mais à peine perceptible. Immédiatement, Globo a cessé de ronfler. Je l'ai entendu tousser, grogner et grommeler des jurons. De toute évidence, il n'était pas content de se réveiller. J'ai couru à son chevet. Il avait ouvert les yeux et semblait éberlué. « Je suis désolée de troubler votre sommeil, monsieur Globo, ai-je bredouillé. Mais nous avons besoin de vous. La machine a été endommagée, elle va tomber en panne et ce sera la fin du monde. » Ventre saint gris, a rugi le vieux bonhomme. C'est pour ça que tu me déranges, sauterelle. Où est mon petit déjeuner? Je veux mon café ou je vous arrache la tête à toutes les deux. Il a essayé de s'asseoir. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte de son état et la colère l'a quitté. Pâle sang bleu, a-t-il gémi. J'ai dû dormir plusieurs siècles. J'ai affreusement maigri. Où est mon chapeau? J'ai pensé qu'il délirait, et j'ai sorti un sandwich de mon sac à dos dans l'espoir de le réconforter. Tout a pourri dans le buffet de la cuisine, ai-je expliqué. Mais prenez toujours ça, ça vous remontera. Il m'a arraché le casse-croûte des mains et l'a dévoré. J'ai compris que lorsqu'il était plus jeune, ce ne devait pas être un type commode. Encore, a-t-il ordonné quand il eut terminé. Poppy, de mauvaise grâce, a dû se résoudre à lui offrir elle aussi son sandwich. Il n'en a fait qu'une bouchée. Tout ça ne me dit pas où est mon chapeau, a-t-il grogné, en s'essuyant la bouche d'un revers de main. Nous comptions sur vous, s'est emportée Poppy brusquement furieuse. La situation est catastrophique. Pourquoi êtes-vous dans cet état? Globo a haussé ses maigres épaules. Des araignées couraient dans sa longue barre blanche, il ne semblait pas s'en apercevoir. Ou alors il s'en moquait. On m'a jeté un sort il y a de cela des millénaires, a-t-il expliqué. À l'époque où la Terre était encore peuplée de dinosaures. Sans me demander mon avis, mes chefs m'ont affecté à l'entretien de la machine merveilleuse. Pour l'éternité. En contrepartie, ils m'ont rendu immortel. Comme ils avaient peur que l'ennui me fasse perdre la tête, ils ont décidé que je dormirais entre deux dépannages. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la machine ne tomberait pratiquement jamais en panne et que je passerais toute ma vie à dormir. Vous êtes peut-être immortel, mais vous avez horriblement vieilli, a déclaré Poppy. Je doute que vous soyez encore capable de soulever votre fameuse trousse à outils. Globo a touché sa barbe et haussé les épaules avec insouciance. Oh, tu veux parler de ça, a-t-il lancé. Le vieillissement et la maigreur sont des conséquences de l'hibernation prolongée, mais elles disparaîtront dès que j'aurai coiffé mon chapeau magique. Où est-il d'ailleurs? Je l'avais posé sur la table de chevet en me couchant, il y a 700 ans. De quel chapeau magique parlez-vous, ai-je demandé. De mon chapeau de réparateur. Quand je le pose sur ma tête, il me rend instantanément force et jeunesse. Je l'ôte pour dormir afin de ne pas user son pouvoir. Dès que je l'aurai retrouvé, je redeviendrai un colosse en pleine forme. Vous ne me reconnaîtrez plus. Bien évidemment, s'il a disparu, je resterai dans l'état dans lequel vous me voyez présentement. C'est-à-dire que je ne pourrai guère vous aider. Je me suis penchée pour regarder sous le lit au cas où le fameux chapeau aurait roulé sur le sol. Il n'y avait rien. Une douzaine de squelettes de rats. C'est fâcheux, a murmuré Globo. Il va falloir vous débrouiller pour le retrouver.
Sinon, je ne vais pas tarder à me rendormir.
Quelqu'un l'a peut-être volé, ai-je supposé.
Le vieil homme a grimacé.
Je ne vois vraiment pas pourquoi, car ce couvre-chef ne fonctionne que sur moi, a-t-il répondu.
Celui qui le volerait s'en trouverait bien embarrassé.
Non. Peut-être a-t-il été emporté par un courant d'air.
Vous devriez jeter un coup d'œil aux alentours.
En attendant, je vais rester là, allongé, car je me sens incapable de quitter ce lit.
Je suis désolé, mais sans mon chapeau, je ne suis plus bon à rien.
Voilà qui ne simplifiait pas les choses.
Imité par Poppy, j'ai donc entrepris d'explorer tous les recoins de la maison, sans rien trouver.
Il a donc fallu étendre le champ des recherches à l'extérieur, dans les rochers, ce qui n'avait rien de facile. Peu à peu, j'ai pris conscience que la caverne était un endroit dangereux, peuplé de précipices, de crevasses, et puis j'ai eu très vite la sensation d'être observé.
« Je crois qu'on nous espionne, » ai-je chuchoté à Poppy.
« J'allais te le dire, » a répondu ma copine. « J'ai repéré des ombres qui bougeaient derrière les rochers. » J'allais ajouter quelque chose quand j'ai enfin repéré le chapeau de Globo, perché au sommet d'une stalagmite à une trentaine de mètres. C'était un chapeau jaune qui se voyait de loin. Il était orné d'une longue plume, comme en portaient jadis les mousquetaires et les pirates. J'ai couru pour le décrocher. Et là, il s'est passé un truc bizarre. Alors que j'avais déjà parcouru la moitié du chemin, je me suis brusquement retrouvé à mon point de départ, là où j'étais une minute plus tôt. J'étais revenu en arrière, à l'instant où mes yeux se posaient sur le chapeau. Nom d'un haricot vert, ai-je pensé, mais j'ai déjà vécu ce moment. Je me suis remise à courir et toc! Alors que je posais presque les doigts sur le couvre-chef Jonas, je me suis encore retrouvée à mon point de départ, 30 mètres en arrière, en train de crier à ma copine « Tiens, le voilà son chapeau !» Ça n'allait pas du tout.
« C'est le temps !» a balbutié Poppy. Il recommence à dérailler.
Il fait des sauts en arrière, nous obligeant à revivre le même moment plusieurs fois de suite. Si ça continue comme ça, on sera encore là dans 6 mois. Cette fois, j'ai couru aussi vite que possible pour attraper le chapeau. J'avais la trouille de repartir encore en arrière. Une seconde, je me suis imaginée prisonnière de cette parenthèse temporelle, condamnée pendant 10 ans à faire les mêmes gestes, à dire les mêmes mots.
Quelle horreur !
Les doigts crispés sur le couvre-chef, j'ai regagné la maison du réparateur.
Voici votre fichu galura. Ai-je grogné à l'adresse de Globo.
Dépêchez-vous de vous en coiffer. Il faut se mettre au travail sans attendre.
La machine cafouille complètement. Le temps se met à bégayer.
Oui, ça lui arrive parfois, a fait le vieil homme en posant soigneusement le feutre sur ses cheveux blancs.
Il y a eu comme un crépitement électrique. J'ai fait un bond en arrière, persuadé que la foudre allait me carboniser sur place. La magie était en train d'opérer.
Globo changeait. Le chapeau jaune, à peine posé sur sa tête, il avait commencé à rajeunir.
En l'espace de quelques minutes, le vieillard décharné à poils gris s'est transformé en un colosse enveloppé d'énormes muscles, que ses longs cheveux et sa barbe noire faisaient ressembler à un homme préhistorique.
« Tu vois, a-t-il lancé, je ne t'ai pas menti. Sans mon chapeau, je ne suis rien. Le problème, c'est qu'à présent, je meurs de faim. »
Sans plus s'occuper de nous, il s'est précipité dans la cuisine. Et là, vision d'horreur, il a dévoré le pain dur, la confiture moisie et le café pourri, sans paraître le moins du monde accommodé. Il mastiquait avec un tel entrain que j'ai même cru qu'il allait engloutir assiette et couvert. Il était si grand que sa tête frôlait le plafond.
« Ah, que j'ai faim !» a-t-il gémi.
Quand je redeviens jeune, j'ai tout le temps faim. C'est un vrai calvaire. Et si je ne trouve aucune nourriture normale à me mettre sous la dent, j'ai tendance à devenir cannibale.
Je préfère vous prévenir, si nous devons travailler ensemble. Toi, tu es trop maigre, mais ta copine, cette Poppy, me paraît d'odieux à souhait.
Arrêtez de délirer, ai-je lancé. On se débrouillera pour vous trouver de quoi manger. Attrapez plutôt votre trousse à outils. Plus vite la machine sera réparée, plus vite je pourrai rentrer chez moi. Je faisais la faraude, mais en réalité j'étais assez inquiète. Travailler avec un cannibale ne m'enthousiasmait pas tellement. Obéissant, Globo a soulevé d'une seule main le sac contenant les outils. Il fallait posséder une force exceptionnelle pour réussir un tel exploit. « Il faut descendre », a-t-il expliqué. « La machine est beaucoup plus bas. » Sans plus s'occuper de nous, il est sorti de la maison pour s'élancer sur le chemin caillouteux qui s'enfonçait dans les profondeurs de la caverne. Il s'y flottait. Nous lui avons emboîté le pas. Nous ne savions que lui dire et, il faut l'avouer, il nous faisait peur. Très vite, nous nous sommes rendus compte que des ombres aux yeux luisants se cachaient derrière les rochers bordant le chemin. Des ombres qui nous espionnaient. Elles chuchotaient entre elles, se bousculant pour mieux nous observer, comme si nous étions des extraterrestres. Tournant brusquement la tête, j'ai aperçu deux hommes préhistoriques enveloppés de peau de bête et, plus loin, un mousquetaire, avec son chapeau à plumes et son nez verrouillé. J'ai dit « Monsieur Globo, on dirait que ces gens viennent d'époques différentes. C'est normal ?»«
Oui, » a répondu le réparateur.
« La machine existe depuis la création de la Terre, et depuis toujours, les habitants de la surface ont tenté de s'en approcher. À toutes les époques, des petits curieux ont trouvé le moyen de descendre ici. Ne vous étonnez pas si vous apercevez des chevaliers en armure ou des légionnaires romains.
« Mais, » a protesté Poppy, « ils devraient être morts depuis longtemps. »«
À la surface, oui, » admet Globo, « mais ici, il en va différemment. » Quand on vit à proximité de la machine, on vieillit si lentement qu'on devient presque immortel. C'est le moyen qu'a trouvé la machine pour attirer et retenir ici les humains dont elle fait ses serviteurs. Disons que c'est une sorte de salaire qui leur est versé en échange de leurs bons et loyaux services. Mais pourquoi a-t-elle besoin d'eux, ai-je demandé. Pour entretenir la caverne, empêcher que les parois ne s'effondrent, boucher les crevasses, faire le ménage, quoi. Mais pourquoi nous regarde-t-il comme ça? Parce que personne n'est descendu ici depuis un bon moment. On n'a donc plus de nouvelles du monde d'en haut. Ils sont curieux. Ils meurent d'envie de vous poser des questions. J'ai fait la grimace. Je n'avais pas tellement envie de discuter avec les bonhommes préhistoriques. Qu'aurait-il pu bien me demander? Si le prix du beefsteak de mammouth avait augmenté? Alors, a supposé Poppy, si on restait ici, on ne grandirait jamais? On aurait 12 ans pour l'éternité? Vous grandiriez, a corrigé Globo, mais très très lentement. Il vous faudrait peut-être 20 ou 30 ans pour avoir enfin 13 ans. Je n'y comprends rien. C'est normal, ces histoires de temps ralenti, c'est toujours très compliqué. Tu dois seulement comprendre qu'ici, les heures, les semaines, ne s'écoulent pas au même rythme que là d'où tu viens. La machine agit ainsi pour garder ses serviteurs en vie le plus longtemps possible. Elle sait que s'ils meurent, il ne lui sera guère facile de les remplacer. Et elle a besoin d'eux pour empêcher que la caverne ne s'écroule. Je sentais la migraine me gagner. Mais Globo n'avait rien inventé. J'ai pu rapidement le vérifier. Derrière les rochers se cachaient des chevaliers en armure rouillée, des légionnaires romains, des Gaulois ayant côtoyé Vercingétorix. S'ils n'avaient pas pris une ride au cours des siècles écoulés, on ne pouvait en dire autant de leurs armes et de leurs casques rongés par l'oxydation. Par la rouille, si vous préférez. Quant à leurs vêtements, ils tombaient en loques, et l'on pouvait presque voir leurs fesses. Brusquement, Globo m'a paru de mauvaise humeur. « Bavarder m'a donné faim, » a-t-il grogné. « Vous n'avez plus rien dans vos sacs à dos, les filles ?»« Hélas, non, » avons-nous répondu, déjà inquiète. « Mais vous trouverez sûrement de quoi manger d'ici peu.
C'est sûr, a renchéri Poppy. Comment vous organisez-vous d'habitude? Vous chassez les animaux?
Non, a grondé Globo. Nous n'avons pas le droit de tuer les animaux. La machine nous l'interdit. Ils ne sont plus assez nombreux. C'est à cause des hommes préhistoriques qui, dans un premier temps, les ont systématiquement massacrés pour les dévorer. La machine a dû réagir avant qu'il n'en reste plus un seul. Depuis, les animaux sont protégés, on n'arrive plus à les tuer.
Ça n'a pas d'importance, ai-je fait remarquer, puisque vous êtes tous immortels. Vous ne courez donc pas le risque de mourir de faim.
On peut dire ça, oui, a tranché le réparateur avec exaspération. On ne peut pas mourir, c'est vrai, mais la sensation de fringale demeure. Elle nous torture. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est d'avoir faim depuis des siècles.
Cette fois, il avait réellement l'air de sale poil. La seule chose qu'on nous permette de manger, a-t-il continué, ce sont les champignons et les lichens qui poussent sur les rochers. Mais manger des champignons pendant 4 ou 5 siècles, ça finit par lasser. Surtout quand, comme moi, on aime la chair fraîche.
Non, d'un haricot jaune, ai-je pensé. Il ne faudrait pas qu'il se mette en tête de nous transformer en casse-croûte, Poppy et moi.
Écoutez, ai-je proposé, faisons une halte. Je vais ramasser des champignons pour faire une soupe. Ça vous calera un peu l'estomac, non?
Mouais, a marmonné Globo, peu convaincu. Ce sera toujours mieux que rien.
Nous nous sommes installés au bord de la route. Les mains tremblantes, j'ai déballé le nécessaire de camping entassé dans mon sac à dos. Vous comprenez, a continué Globo en se passant la langue sur les lèvres. Les animaux sont répertoriés par la machine, les humains également. Elle tient ses comptes à jour et vérifie sans cesse que rien n'a changé. Les humains n'ont pas le droit de se tuer entre eux. Mais comme ils sont encore nombreux, ils sont moins protégés que les animaux. Si bien que si quelqu'un s'avisait d'en dévorer un, ce ne serait pas trop grave. Surtout s'il s'agissait d'un étranger ou d'une étrangère que la machine n'a pas encore enregistrée. Vous deux, par exemple, vous ne figurez pas encore sur les listes de la machine. Elle ignore votre présence. Si bien que si quelqu'un s'avisait de vous manger...
Je vais ramasser les champignons, ai-je bredouillé en me levant précipitamment.
Je vais t'aider, a glapi Poppy. Tu n'y arriveras pas toute seule.
Nous avons pris la fuite sous l'œil gourmand de Globo, qui ne cessait de se passer la langue sur les lèvres.
Qu'est-ce qu'on fait ? A gémi Poppy en arrachant de gros champignons pour les entasser dans son sac.
Tu as vu de quelle manière il nous regarde ?
Oui, ai-je murmuré, mais on a besoin de lui. Il faut qu'il répare la machine, sinon ce sera la fin du monde. Je vais demander à la valise de nous aider.
Quand nous sommes revenus au camp, Poppy a préparé les champignons et je me suis éloignée pour interroger le bagage magique.
Si ça continue comme ça, il va nous dévorer, ai-je balbutié. Trouve une solution, vite!
Glisse la main sous le couvercle, a répondu la valise. Tu trouveras un tube de comprimé modérateur d'appétit. Ça devrait le calmer pendant un moment. Mélange-les à sa soupe. J'espère que ce sera suffisant.
J'ai récupéré les cachets et j'ai regagné le bivouac.
La soupe aux champignons sentait bon. J'ai fait fondre 2 comprimés dans le bol de Globo.
Tenez, ai-je lancé en lui apportant, avalez ça, je pense que ça calmera votre fringale.
J'en doute, a grogné le réparateur, mais bon, je veux bien essayer.
Il m'a pincé la joue en soupirant. Tu es bien gentille, ma petite. Dommage que tu sois si maigre.
Pourvu que ça marche, ai-je pensé, sinon il va nous dévorer avant la fin de la journée.
Et si on lui écrasait la tête avec une grosse pierre, m'a chuchoté Poppy lorsque je l'ai rejointe près du bivouac.
On ne peut pas, ai-je tranché. Il faut qu'il répare la machine. S'il ne le fait pas, des millions de gens mourront. Ce sera le chaos total.
D'accord, a grogné ma copine. Mais s'il nous mange, tu ne viendras pas pleurnicher.
La gorge serrée, j'ai avalé ma soupe qui était délicieuse. Je n'osais pas me retourner, car je sentais le regard de Globo fixé sur moi. Il devait m'imaginer en train de rôtir à la broche. Le repas avalé, il a fallu se remettre en route. Plus tôt la machine serait réparée, plus vite nous pourrions prendre la fuite, Poppy et moi. Au bout d'un quart d'heure, le réparateur a recommencé à grogner. Des gargouillements atroces montaient de son estomac. « Ah, j'ai trop faim » haletait-il. « C'est insupportable !» De part et d'autre du chemin, des animaux nous observaient, immobiles, comme s'ils n'avaient pas peur des humains. Il y avait là des biches, des cerfs, des sangliers, des lapins. À cause de l'absence de lumière solaire, leur pelage était devenu blanc. « Ah, c'en est trop !» a hurlé Globo. « Il me nargue, je n'en peux plus. Tant pis !» Et, laissant tomber sa trousse à outils dans la poussière, il a ramassé un gros caillou et s'est élancé en direction des animaux. J'ai poussé un cri de terreur. Curieusement, les bêtes ne bougèrent pas. Globo, ivre de fureur et de gourmandise, se jeta sur une biche et la frappa à la tête de toutes ses forces. Je pensais que la pauvre bête allait s'effondrer sur le sol, le crâne fendu, mais non, elle restait plantée sur ses pattes, raide comme une statue. Désespéré, Globo se jeta alors sur un sanglier qu'il essaya pareillement d'assassiner. Mais le cochon sauvage demeura lui aussi immobile, insensible. Les coups que lui assénait le réparateur résonnaient de façon bizarre, comme si l'on avait frappé une statue de bronze avec un marteau. À bout de nerfs, Globo s'est agenouillé dans la caillasse, la tête dans les mains et s'est mis à pleurer. Lentement, je me suis approché des animaux pour les toucher. Ils s'étaient changés en pierre. « C'est la machine qui les protège, » a reniflé le colosse. « Dès qu'on essaie de leur faire du mal, elle les transforme en statues. Il est impossible de les tuer. Et encore moins de les manger. » Le danger étant désormais écarté, les biches ont recouvré leur souplesse. Après s'être ébrouées, elles se sont éloignées à pas lents, leurs sabots cliquetant sur les rochers. « C'est super, ai-je pensé. Si la machine faisait la même chose pour ceux qui, comme nous, vivent à la surface, il n'y aurait plus de crimes ni de morts. » Les lamentations de Globo m'ont ramené à la réalité. « Ah, comme j'ai faim !» pleurait-il. Heureusement, au bout d'une demi-heure, les cachets modérateurs ont fait effet et ses crampes d'estomac ont cessé. Nous avons pu reprendre la route en toute tranquillité.